Que faisiez-vous dans la nuit du vendredi au samedi 1er décembre ?
Ce soir-là, j'ai dormi chez Gérard, un copain qui habite dans le 18e.
Qu'avez-vous fait avant d'arriver chez Gérard ?
Je suis allé acheter du shit à la gare de Colombes.
Lorsque vous vous rendez à Colombes pour acheter une barrette, êtes-vous armé ?
Bah, il m'arrive d'avoir un couteau sur moi.
Avez-vous agressé physiquement une passante sur le pont de Neuilly le samedi 1er décembre ?
Non, j'ai commis aucune agression. Je suis totalement étranger à toute cette affaire.
Pont de Neuilly, le samedi 1er décembre 2001. Marie-Agnès Bedeau, une mère de 3 enfants, est retrouvée morte sur les marches du pont. Cette femme vient d'être sauvagement assassinée à coups de couteau. L'enquête mène rapidement les policiers vers un suspect. Marc Machin, un marginal de 19 ans, déjà connu des services de police pour actes de violence et agressions sexuelles. Après 36 heures de garde à vue, le jeune homme avoue le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Mais 3 semaines plus tard, face au juge d'instruction, Marc Machin revient sur ses aveux. Pour ce meurtre qu'il ne reconnaît plus, il est mis en examen et incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. L'homme ne cessera dès lors de clamer son innocence. Pourtant, tout l'accuse. À la cour d'assises de Nanterre, ce vendredi 10 septembre 2004, au deuxième jour du procès de Marc Machin, la conviction de l'avocat général ne laisse aucun doute quant à la culpabilité de l'accusé.
Lorsque je suis entrée hier dans cette salle d'audience, ma conviction n'était pas faite. Il est vrai que l'instruction a laissé beaucoup de questions sans réponse. Cette affaire est singulière, irritante. Un crime inscrit dans le non-dit. Dans l'obscurité des silences, seul le cadavre de cette malheureuse femme parle. Mais aujourd'hui, ma conviction est faite. Monsieur Marc Machin, vous m'avez convaincu de votre culpabilité.
Ce samedi 1er décembre 2001, le jour n'est pas encore levé sur le quartier de la Défense. Il est environ 7h30 du matin. Marie-Agnès Bedeau, une mère de famille de 45 ans, quitte son domicile.
Maman, comme à son habitude, part à sa salle de sport. Puisqu'elle est très sportive, elle se rend à la salle qui est située porte-maillot depuis chez nous à la Défense à pied.
Elle se rendait à ce fameux gymnase tous les jours à des heures identiques, en se levant donc très tôt.
Marie-Agnès, pour se rendre à son club de gym, effectue chaque jour à pied un trajet de 30 minutes en traversant le pont de Neuilly. À mi-chemin, elle emprunte les escaliers menant au quai de Seine. Mais ce matin-là, un homme marche sur ses pas.
À peu près au milieu du pont, elle est agrippée par la main d'un homme, en tout cas, qui lui fait dégringoler les escaliers et qui lui assène plusieurs coups à l'arme blanche.
La victime succombe instantanément aux coups portés par son agresseur. Le meurtrier dérobe le sac de Marie-Agnès Bedeau et prend la fuite. Quelques heures après le crime, un sans-domicile fixe alerte la police. Il vient de découvrir le corps d'une femme gisant dans l'un des escaliers du pont de Neuilly.
Lorsque les enquêteurs arrivent sur place, ils constatent effectivement que le corps est sur le ventre, au milieu d'un tas de feuilles mortes.
La scène de crime témoigne de la sauvagerie de l'attaque.
Il y a plusieurs taches de sang qui partent du début des marches, des flaques en bas. Il est manifeste qu'elle a reçu plusieurs coups.
Elle a 2 grosses plaies à la poitrine, dont l'une a percé le poumon. Et elle a aussi une plaie importante sur le dessus de la main, une plaie en forme d'arc de cercle.
Dans les escaliers, les policiers saisissent 2 bouteilles de rhum. Marie-Agnès Bedeau porte toujours ses bijoux. À cet instant, les indices sont maigres. Pas de témoins, pas d'armes du crime, pas de mobile.
À ce stade, on n'a aucune explication. On ne connaît pas cette femme d'ennemi particulier. C'est une mère de famille qui travaille, qui vit avec deux de ses enfants. Et on ne peut pas imaginer de raison particulière.
C'est une enquête difficile parce que le 1er décembre, lorsque Madame Bedeau prend ce pont, le pont de Neuilly, il fait nuit. On est en plein hiver. Et personne. On est un samedi matin en plus. Donc les premières pistes sont un peu dans le brouillard.
Une enquête particulièrement compliquée. Elle est donc confiée à un service d'élite de la police française.
L'enquête est confiée à la brigade criminelle 36 Quai des Orfèvres, que je connais de nom et de renommée. On dit qu'on va être, voilà, que notre affaire va être prise en main et qu'on va probablement à un moment donné avoir des réponses.
Le lendemain du crime, les enquêteurs quadrillent le quartier de la Défense. Leur but ? Retrouver un éventuel témoin du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Très vite, les policiers recueillent un témoignage crucial. Celui d'une infirmière présente à l'entrée du pont de Neuilly à l'heure du crime, ce samedi 1er décembre.
L'infirmière qui est passée par là la veille raconte tout de suite aux enquêteurs qu'elle a croisé quelqu'un qui l'a verbalement agressé, en tout cas qui lui a fait une proposition salace. Elle a été effarée, elle est partie à toutes jambes.
Cet agresseur est peut-être l'homme qui a tué Marie-Agnès Bedeau. Au 36 Quai des Orfèvres, grâce aux descriptions de l'infirmière, les policiers dressent un portrait robot du suspect.
Elle décrit un homme européen de 25-30 ans, aux cheveux courts, qui porte un blouson bombardier, un blue jean et des chaussures montantes.
À ce stade de l'enquête, cette description est le seul indice dont dispose la brigade criminelle. Pour identifier le suspect, les policiers distribuent à tous les commissariats de la région parisienne le témoignage de l'infirmière. Elle y décrit avec précision les propos obscènes tenus par son agresseur. Et ce sont ces mots qui vont faire basculer l'enquête.
Quelques jours après la diffusion du signalement, un policier du commissariat de Suresnes percute notamment sur la phrase que l'homme du pont a dite à l'infirmière. Il se souvient, lui, d'avoir arrêté un jeune homme qui a dit à peu près la même chose à une femme qui a été agressée sexuellement.
Cet homme, c'est Marc Machin. En mars 2000, à peine âgé de 17 ans, il viole une femme dans un hall d'immeuble à Suresnes. Arrêté, il est alors condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis.
Marc Machin, c'est un garçon, un jeune homme de 19 ans qui ne fait pas grand-chose. Il s'occupe en fumant des pétards et en jouant à la PlayStation. Voilà, il ne travaille pas, il zone.
C'est un jeune qui est totalement à la dérive, et qui a un parcours jonché de placements en garde à vue, avec parfois des procédures qui vont donner lieu à des poursuites.
Son profil intéresse les policiers. Au 36 Quai des Orfèvres, l'infirmière identifie Marc Machin parmi les photos qui lui sont présentées. Elle pense qu'il pourrait être l'homme qui l'a agressé verbalement. Un témoignage mis à mal par l'avocat de la Défense lors du procès à Nanterre, en septembre 2004.
Monsieur le Président, Madame l'Avocat Général, j'ai un vrai problème avec le témoignage de cette infirmière. Comment aurait-elle pu reconnaître Marc Machin alors qu'il était 7 heures du matin, en décembre, et qu'à cette période de l'année, et à cette heure-là, il fait nuit noire? Non. Vraiment, ce témoignage ne tient pas debout.
12 jours après le meurtre, le 13 décembre 2001, les policiers de la brigade criminelle de Paris partent interpeller Marc Machin au domicile de son père.
lors de cette interpellation, les enquêteurs vont évidemment profiter de leur présence chez Marc Machin pour procéder à une perquisition et tenter de retrouver des vêtements qui ressemblent à ceux décrits par ce témoin qui a reconnu Marc Machin sur photo.
On découvre dans la chambre qu'occupe Marc Machin un vêtement qui est un blouson d'aviateur avec de la fourrure, avec une tache dans la poche droite qui peut être une tache de sang, et évidemment c'est un objet qui va être saisi.
Une veste tachée de rouge et qui ressemble étonnamment à celle décrite par l'infirmière. Marc Machin est alors placé en garde à vue et transféré au 36 quai des Orfèvres. Dans les locaux de la brigade criminelle de Paris, l'homme n'emmène pas large. S'il est habitué aux gardes à vue, c'est la première fois de sa vie qu'il répond aux questions des célèbres agents du 36.
Lors de son placement en garde à vue, on lui dit les raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la police. C'est pour un homicide. Les enquêteurs vont lui exposer petit à petit les éléments qui l'ont amené jusqu'à lui et les raisons qu'ils ont de penser qu'il puisse être l'auteur des faits pour lesquels ils ont été saisis.
Dès le début de l'interrogatoire, Marc Machin nie l'assassinat de Marie-Agnès Bedeau. Il affirme avoir un alibi. Il serait allé acheter de la drogue en banlieue. Puis il serait rentré à Paris dans le 18e arrondissement. Un copain l'aurait hébergé chez lui. Il y aurait passé la nuit et la matinée de ce 1er décembre, jour du crime. Problème, personne ne se souvient avoir vu Marc Machin cette nuit-là.
Il y a deux personnes, en principe, qui doivent confirmer qu'il ne pouvait pas se trouver au Pont de Neuilly puisqu'il était dans le 18e ou en train d'acheter du shit à Colombes. Mais les deux copains ne confirment pas l'alibi.
Au fur et à mesure de l'évolution de cette garde à vue, tout ce qu'il va présenté comme étant sa défense, se retournera contre lui parce que rien de ce qu'il nous dit n'est confirmé. Et cette garde à vue, elle va évoluer de telle manière que les enquêteurs ont de plus en plus la conviction qu'il est l'auteur.
Une conviction renforcée lorsque les policiers demandent à l'infirmière d'identifier à nouveau Marc Machin. Cette fois, au travers d'une vitre sans teint.
Ce qui conforte les policiers dans leur idée que Marc Machin est l'auteur de ce crime, c'est que l'infirmière le reconnaît derrière la glace sans teint et que par ailleurs la description qu'elle a faite du blouson correspond au blouson qu'on a retrouvé chez Marc Machin, qui sont deux éléments très forts.
Le suspect continue pourtant à nier. Il n'a jamais mis les pieds sur le pont de Neuilly. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils sont persuadés que Marc Machin est coupable, mais pour le faire avouer, il ne leur reste plus que 12 heures de garde à vue. Les policiers vont alors faire appel à une pointure du 36 quai des Orfèvres. Jean-Claude Mulès, un commandant réputé pour sa pugnacité et sa capacité à obtenir des aveux.
Jean-Claude Mulès va tout faire pour que Marc soit complètement rassuré et, au fond, que Marc prenne conscience que, n'ayant pas d'alibi et ayant contre lui des témoignages ou un témoignage important, il puisse admettre les faits.
Et M. Mulès lui offre un café, lui remet un gilet pour qu'il ait moins froid. Puis lui dit, tu sais, tu as 19 ans, tu vas t'en sortir, et on peut s'arranger, tu devrais dire la vérité.
Et la stratégie fonctionne. Après quelques minutes d'échanges informels, Marc Machin veut parler aux enquêteurs. Il souhaite passer aux aveux.
Marc Machin, au cours de ses aveux, raconte ce qu'a été sa soirée. Il est en train de boire, il fume, il se balade dans le bois de Boulogne, il erre dans le bois de Boulogne, sans but précis. Et finalement, il dit se retrouver sur le pont de Neuilly au petit matin.
Et alors après, il est extrêmement flou. Il dit, je suis sur un pont, j'ai un couteau à la main, un corps est en bas à mes pieds, il y a du sang partout. Je vais me débarrasser du couteau, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, ni comment j'ai frappé.
Marc Machin n'aurait donc pas prémédité le meurtre de Marie-Agnès Bedeau.
La mort d'Agnès, c'est une tragédie. Elle va faire sa gymnastique, elle croise le chemin d'un bras armé, et elle est là au mauvais moment et au mauvais endroit. C'est insoutenable.
Les aveux de Marc Machin sont pris très au sérieux. D'autant qu'il fait une description très précise de Marie-Agnès Bedeau.
Marc Machin décrit aussi les vêtements de la victime et tout cela crédibilise évidemment ses aveux parce que au fond il est en train de relater ce qui s'est passé sur la scène de crime pratiquement comme les enquêteurs l'ont découverte.
La garde à vue arrive à son terme. La police tient son coupable. Les enquêteurs annoncent la bonne nouvelle aux avocats de la famille de la victime.
Je suis placée devant une évidence d'un homme qui raconte quelque chose de très vraisemblable. En tant qu'avocat des parties civiles, je me dis que cet homme est le meurtrier de Marie-Agnès Bedeau.
À Nanterre, lors du premier procès, l'avocat de Marc Machin dénonce les méthodes policières en vigueur au 36 quai des Orfèvres.
Je voudrais revenir sur les fameux aveux de mon client. Parce qu'ils lui ont été tout simplement extorqués par les agents de la brigade criminelle. Voyant qu'ils n'obtenaient rien de lui, ils ont fait intervenir, hors procédure légale, un certain monsieur Mulès, commandant de police zélé, et c'est cet homme qui va faire craquer mon client. Alors qu'il en était à sa 36e heure de garde à vue.
Une ligne de défense que l'avocat général fait mine d'ignorer.
Monsieur le Président, je n'ai pas besoin des aveux de Marc Machin pour démontrer sa culpabilité. Ces aveux, si je puis dire, c'est la cerise sur le gâteau. Car dans cette affaire, tout accuse déjà Marc Machin. Il est un homme ultra-violent, sans alibi, et un témoin l'a formellement reconnu.
Le 14 décembre 2001, Marc Machin est mis en examen pour homicide volontaire et vol. Face au juge d'instruction, il réitère ses aveux. L'homme est incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Mais trois semaines plus tard, le 8 janvier 2002, l'affaire bascule. Lors de son deuxième interrogatoire face au juge d'instruction, Marc Machin revient sur ses aveux.
C'est un tout autre mise en examen qui se présente au juge et qui dit « Ce que j'ai dit à la police et ce que je vous ai dit est faux. Je ne suis pas le meurtrier de Marie-Agnès Bedeau. »
Le juge ne croit pas Marc Machin. Comment, s'il n'est pas l'assassin, a-t-il pu décrire si fidèlement la scène de crime ? Le jeune homme livre alors une troublante explication.
Il va dire aussi une chose, c'est que pendant sa garde à vue, les enquêteurs ont fait tomber malencontreusement des photos de la victime, de la découverte du corps, qu'il s'est d'ailleurs levé pour les ramasser. Les enquêteurs lui ont dit non, ne les ramasse pas, mais qu'il a vu les photos, qu'il a vu la scène de crime.
Une justification qui intrigue le juge d'instruction. Mais les policiers sont formels. Jamais Marc Machin n'a vu les photos de la scène de crime. C'est parole contre parole. Le jeune homme est maintenu en détention. Et c'est à la maison d'arrêt de Nanterre qu'il prend enfin connaissance des résultats des tests ADN. À la grande surprise du juge, rien ne permet scientifiquement de lier Marc Machin au crime.
Sur Marie-Agnès Bedeau, un expert de Garches analyse les vêtements, les ongles et ne trouve pas l'empreinte génétique de Marc Machin. De la même manière, cet expert analyse les vêtements de Marc Machin et ne trouve aucune trace de l'empreinte génétique de Marie-Agnès Bedeau.
Les bouteilles de rhum trouvées sur la scène de crime ne portent pas non plus la trace de l'accusé. Quant à la marque rouge retrouvée sur son blouson, il ne s'agit pas d'une tache de sang. Ces résultats étonnent la famille de la victime.
Je suis inquiète, je suis pas rassurée. Il y a une distorsion, si vous voulez, entre la réalité scientifique et ce que dit Marc Machin. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça affaiblit très notablement le dossier.
Je me dis qu'effectivement, sans preuve scientifique, ça va être peut-être compliqué d'arriver jusqu'à la condamnation de cette personne.
Au procès de Nanterre en septembre 2004, fort des résultats ADN, l'avocat de Marc Machin contre-attaque.
L'absence de traces génétiques est un élément technique très fort dans ce dossier, même si le juge d'instruction n'en a tenu aucun compte. Si Marc Machin était coupable, on aurait dû retrouver son ADN sur la scène de crime. S'il y a eu lutte, s'il y a eu corps à corps entre Madame Bedeau et son agresseur, alors comment expliquer qu'on n'ait pas retrouvé les traces ADN de Marc Machin sur le corps de la victime? C'est inexplicable! Sauf si Marc Machin n'est pas le meurtrier.
L'avocat général, lui, fait une toute autre lecture de ses résultats.
Malheureusement pour vous, maître, les experts ne sont pas d'accord avec votre raisonnement. Oui, c'est vrai. L'ADN de Marc Machin n'a pas été retrouvé sur le corps de Marie-Agnès Bedeau. Mais que disent les experts? Ils sont formels. Après un crime, le meurtrier ne laisse pas systématiquement son ADN sur la victime.
Mais bientôt, l'affaire va prendre une nouvelle tournure, 6 mois après le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Alors que Marc Machin est toujours en prison, un nouveau crime est commis sur le pont de Neuilly.
Nous sommes donc le 22 mai 2002. Comme tous les matins, Madame Marougeau se rend à son travail. Elle part de Courbevoie. Elle traverse donc le pont de très bonne heure à 6 heures du matin.
Le destin de Maria-Judith Arougeau, une femme de ménage de 48 ans, va subitement basculer lorsqu'elle croise un individu au niveau des marches du pont.
Brusquement, cet homme la saisit par les épaules, la bascule dans l'escalier, si violemment qu'elle a le nez cassé et les côtes fracturées. Et là, il tente de l'étrangler. Voyant qu'elle est encore consciente, il prend une bouteille et avec le tesson, il l'égorge. Et ensuite, il la traîne en bas des marches et il la laisse se vider de son sang.
Le corps de Maria-Judith Arougeau est retrouvé sur les marches du pont de Neuilly, quelques heures plus tard par un passant. Une scène de crime presque identique à celle que les enquêteurs ont découverte après le meurtre de Marie-Agnès Bedeau, 6 mois plus tôt.
Il y a des similitudes évidentes entre ces deux meurtres. Le premier a été commis à coups de couteau, le deuxième à coups de tesson de bouteille. Enfin, ce sont deux femmes d'âge à peu près identique, même lieu, même circonstances. C'est évidemment très troublant.
Pourtant, malgré les similitudes, le juge d'instruction est formel. Le meurtrier de Maria Judith Arrojo n'est pas celui de Marie-Agnès Bedeau.
Ces deux crimes font l'objet de deux procédures tout à fait parallèles, presque hermétiques. Deux équipes de la police criminelle, distinctes, deux juges d'instruction, différents, et au fond, le sentiment que les faits n'ont rien à voir.
Du fond de sa cellule, Marc Machin enrage. Il réclame que les deux crimes soient rapprochés.
Il a le sentiment que cette enquête qui est menée à charge contre lui va à l'encontre de la vérité, et il est convaincu que l'auteur du deuxième crime est également l'auteur du crime pour lequel lui-même est incarcéré.
Le 8 septembre 2004, après 2 ans d'instruction, s'ouvre enfin le procès de Marc Machin devant la cour d'assises de Nanterre. C'est l'épreuve de vérité pour le jeune homme. Car pour l'instant, tout l'accuse.
Marc présente le profil idéal pour être le coupable de ce crime.
Durant les 2 jours d'audience, Marc Machin clame son innocence. Mais dans son box, le jeune homme livre une prestation catastrophique.
Marc Machin a une attitude qui est extrêmement difficile. Il est à ce moment-là, il se montre très agressif, incontrôlable. Il tient des propos qui peuvent être parfois aussi assez violents.
Il est provocant, incorrect, globalement antipathique. Le comportement de Marc Machin est suicidaire.
Marc Machin ne le sait pas, mais à cet instant, son attitude achève de convaincre les jurés de sa culpabilité.
Les propos excessifs qu'il a tenus pendant ces débats ont invité tous ceux qui les ont entendus, et surtout ceux qui ont eu en charge de le juger, à considérer qu'il était nécessairement l'auteur de ce crime.
Je pense que toute l'Assemblée présente ce jour-là est ressortie de cette salle d'audience en se disant « il est coupable ».
Marc Machin m'a convaincue de sa culpabilité. Je n'avais pas abordé le procès avec cette conviction.
Ce vendredi 10 septembre 2004, à l'unanimité des jurés, Marc Machin est reconnu coupable du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
Il prend conscience que des aveux, c'est calamiteux. Il prend conscience que la conviction policière, quand elle est exprimée devant des jurés, c'est presque incontestable. Et au fond, il a ce sentiment d'avoir été piégé. Il en veut à la terre entière, mais il s'en veut aussi à lui.
Marc Machin retourne en cellule et fait immédiatement appel de sa condamnation. Un deuxième procès se tient en novembre 2005 à la cour d'assises de Versailles. Mais pour l'accusé, les débats sont à nouveau un fiasco. Il est condamné à 18 ans de réclusion, aggravé cette fois d'une peine de sûreté de 12 ans.
Je me dis à ce moment-là que oui, c'est un soulagement et que cet épisode est terminé, qu'il n'y aura pas de suite, qu'il va accomplir sa peine et payer pour ce qu'il a fait. Donc c'est enfin le soulagement de me dire je vais pouvoir avancer avec cette histoire.
L'affaire du meurtre du pont de Neuilly aurait pu s'arrêter là. Mais 3 ans après la condamnation de Marc Machin, l'inimaginable va se produire. Dans la soirée du 4 mars 2008, un SDF de 34 ans, David Sagno, se présente au commissariat de la Défense. Il vient avouer les meurtres de Maria Judith Arrojo et de Marie-Agnès Bedeau.
Les policiers sont évidemment complètement interloqués. ils ont le bon réflexe de vérifier sur leur terminal si ces informations ne sont pas fantaisistes. Il y a bien eu deux meurtres qui ont été commis.
Face aux policiers, David Sagno livre alors un récit particulièrement macabre.
Il décrit d'abord le meurtre de Madame Arrojo, qu'il a étranglé, puis tranché la gorge avec un tesson de bouteille, pour ensuite se livrer sur elle un certain nombre d'attouchements, sans oublier le fait qu'il a léché le sang de sa victime, pour se donner de la force, dit-il.
L'homme explique ensuite comment il aurait tué Marie-Agnès Bedeau.
Il dit qu'il a dormi la nuit dans les sous-sols de la Défense, qu'il s'est levé le matin et qu'il a été pris d'une envie de meurtre. Il a vu une femme qui passait sur le pont, il l'a entendu tousser, il a considéré que c'était comme un appel, comme un signal, et à ce moment-là, il la bouscule et il va l'alarder de coups de couteau.
Enfin, David Sagno affirme qu'il aurait procédé à des attouchements sexuels sur le corps sans vie de sa victime. Le lendemain matin, il est transféré au 36 quai des Orfèvres pour être interrogé par la brigade criminelle. Ce même service qui avait obtenu les aveux de Marc Machin pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau.
Que ce revirement soit embarrassant pour la police criminelle, c'est incontestable. Les fonctionnaires de police qui travaillent dans ce genre de service souhaitent évidemment découvrir la vérité. Et quand on leur expose l'éventualité d'une erreur, c'est douloureux.
En garde à vue, le jeune sans domicile fixe va cependant livrer des détails qui ne collent pas avec la scène de crime.
Il dit que la victime ne portait aucun bijou alors que Madame Bedeau avait une bague presque à chaque doigt. Et une photo de Madame Bedeau lui est présentée parmi d'autres et il ne la reconnaît pas.
Sur ces quatre portraits, David Sagno désigne celui d'une inconnue. Et ce n'est pas là sa seule erreur.
Décrit des rituels sexuels post-mortem qui ne sont pas compatibles avec les constatations médico-légales qui avaient été faites à l'époque, puisque le médecin légiste avait dit clairement qu'il n'y avait pas d'atteinte sexuelle. Donc, je me dis que cet homme raconte n'importe quoi.
Mis face à ces contradictions, il se rétracte. Finalement, il déclare ne pas avoir tué Marie-Agnès Bedeau. Il ne reconnaît plus que le meurtre de Marie-Judith Arrojo. David Sagno est-il un tueur en série ou un mythomane? Quand il se présente au commissariat de la Défense ce 4 mars 2008, David Sagno est âgé de 34 ans. Né en Seine-Saint-Denis, d'origine guinéenne, il est le septième d'une fratrie de 9 enfants élevés dans un climat de brutalité.
Le père est violent avec la mère, il est violent avec lui. Les parents vont rapidement se séparer, divorcer. Il va suivre sa mère, il a à peu près 7-8 ans à l'époque.
C'est à l'adolescence que David Sagno décroche du système.
La violence paternelle de l'enfance qui a infusé tout au long de sa jeunesse, qui va le suivre dans son adolescence, le feront aller d'échecs scolaires en vagabondage.
Son passé judiciaire est assez lourd, puisque on retrouve beaucoup, beaucoup d'incivilités. Et puis, les délits vont crescendo. Puisqu'il y a eu quand même quelques agressions sexuelles.
David Sagno possède le profil type du délinquant en perdition. Mais est-il pour autant un criminel? Pour écarter les doutes, Philippe Courroy, le procureur de Nanterre, ordonne aux policiers de reprendre l'enquête sur le meurtre de Marie-Agnès Bedeau et de réentendre la famille de la victime.
Sur le moment, c'est un cataclysme quand même. Il y a un côté, c'est pas possible. On va pas repartir pour tout ça. C'est pas possible.
Si Philippe Courroy veut réentendre les proches de Marie-Agnès Bedeau, c'est pour faire la lumière sur un élément nouveau et troublant. Dans ses aveux, David Sagnot affirme savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du sac qui l'aurait dérobé à la victime.
Il a donné le contenu du sac. Et par définition, personne ne peut connaître le contenu du sac puisqu'il a disparu.
Dans ce sac, David Sagnot aurait retrouvé un lecteur de CD portable contenant un disque de l'artiste Johnny Rivers. Pour vérifier cette déclaration, le procureur de Nanterre demande à la famille de Marie-Agnès Bedeau de tenter de retrouver le boîtier du CD.
C'est le frère de Madame Bedeau qui va retrouver dans sa discothèque, qui contenait des disques de sa sœur, une pochette vide. Il manquait le CD de Johnny Rivers.
Une découverte capitale. L'ombre d'une erreur judiciaire plane désormais sur l'affaire du meurtre du pont de Neuilly. De nouveaux tests ADN sont effectués sur les vêtements de Marie-Agnès Bedeau. Leur but, trouver l'empreinte génétique de David Sagnot.
Il y a très peu de chances que ces vêtements puissent parler, qu'on puisse retrouver de l'ADN. Il pleuvait d'ailleurs le 1er décembre 2001. Il est probable que l'eau, le temps passé, a peut-être effacé les traces d'ADN. Mais s'il y a une chance, on va la tenter.
Et contre toute attente, 7 ans après les premières analyses faites sur les habits de Marie-Agnès Bedeau, l'ADN va parler.
Les techniques ont évolué depuis 2001 et on peut espérer, avec les nouveaux réactifs qui sont mis en place, détecter des empreintes génétiques qui n'avaient pas été mises en évidence à l'époque. Et là, on va voir apparaître une magnifique empreinte génétique masculine qui n'est pas celle de Marc Machin, mais qui est celle de David Sagnot.
David Sagnot a donc bien été en contact avec Marie-Agnès Bedeau. Un nouvel élément qui ne convainc pas pour autant la famille de la victime.
Au moment où les résultats ADN tombent au niveau des vêtements, je continue de me dire que c'est probablement parce que David Sagnot a eu un contact, qu'il a été présent à un moment donné, mais pas que c'est lui le coupable.
Évidemment, David Sagnot peut n'être arrivé qu'après le meurtre et avoir manipulé le corps de Marie-Agnès Bedeau alors qu'elle était déjà décédée pour lui prendre ses effets personnels. Et au fond, ça ne ferait pas de lui le meurtrier.
Alors David Sagnot est-il vraiment l'assassin de Marie-Agnès Bedeau? Oui, avoue désormais le SDF lors d'un nouvel interrogatoire. Marc Machin, toujours en prison, ne sait rien des aveux de David Sagnot. Le lendemain, 2 policiers de la brigade criminelle se rendent à la maison d'arrêt du Val-de-Reuil pour lui annoncer la nouvelle.
La réaction de Marc à ce moment-là, je crois qu'elle est bestiale. C'est d'ailleurs ce que vont dire les enquêteurs, qui vont exprimer combien ce moment a été glacial pour eux, tellement Marc a hurlé sa douleur.
La douleur d'un homme qui clame son innocence depuis 7 ans. Pour disculper Marc Machin, le sortir de prison, il manque la preuve irréfutable. Et elle ne va pas tarder à surgir grâce à une dernière expertise génétique sur les ongles de Marie-Agnès Bedeau.
Sous les ongles, jusqu'à présent, on n'avait retrouvé aucun ADN exploitable. Et là, on va retrouver l'ADN de David Sagnot, ce qui corrobore effectivement aussi tout ce qu'il dit, à savoir qu'il y a eu une lutte entre eux. Elle a donc dû, par des zones de prise, par des zones de défense, se défendre et tenter de griffer son tueur.
Une découverte stupéfiante. Car en 2001, l'ADN de David Sagnot n'est pas détecté par les scientifiques. Et pour cause. Seuls 2 des ongles de la victime sont analysés à l'époque.
On apprend donc que 2 ongles seulement ont été analysés, alors que 10 ont été prélevés. On apprend qu'ils l'ont été de façon aléatoire. C'est tirage au sort, j'imagine. Tiens, je vais en prendre un comme ci, un comme ça. Et c'est ça, ma colère.
L'expert de Garches a pris la décision de ne faire qu'une analyse partielle du scellé. Ce qui, pour moi, est contraire aux règles de l'expertise. C'est-à-dire que lorsqu'on a une affaire de meurtre, qui est quand même une affaire gravissime, on analyse la totalité des ongles de la victime, parce que c'est vraiment là où on a une chance de trouver quelque chose.
Une deuxième découverte scientifique vient alors préciser l'implication de David Sagnot. En réexaminant les photos de la scène de crime, les experts comprennent que la plaie en forme d'arc de cercle sur la main de la victime a été provoquée par la morsure de l'agresseur.
J'ai vraiment un sentiment de vertige quand je vois ça. Je me dis, mais ça veut dire qu'il y a dans ce dossier la trace ADN du meurtrier sur la main de cette femme depuis le début, et que comme personne n'a vu dedans, personne n'a cherché là.
La famille de Marie-Agnès Bedeau doit maintenant se rendre à l'évidence. David Sagnot est vraisemblablement le meurtrier du pont de Neuilly.
Je réalise vraiment que ce nouveau coupable est probablement le vrai coupable. Que toute l'histoire qu'on avait réussi à accepter, plus ou moins, n'est finalement pas du tout la bonne.
Après ce rebondissement, les affaires Bedeau et Arrojo sont enfin jointes. Le ministère de la Justice réclame désormais l'ouverture d'un troisième procès de révision pour Marc Machin.
Vous avez finalement une information judiciaire qui va conduire à la mise en examen de David Sagnot pour ce meurtre, alors qu'il y a dans les prisons françaises, à Val-de-Reuil, quelqu'un qui a été condamné pour ce meurtre. Donc il y a manifestement un coupable de trop.
Ce coupable, qui n'est pas encore judiciairement innocenté, recouvre la liberté le 7 octobre 2008. Il est 9h30 ce matin-là quand Marc Machin franchit le perron de la prison de Rouen. L'homme vient de passer 7 années derrière les barreaux.
Ça m'étonne moi-même d'avoir tenu le coup. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil aurait pu m'arriver. Et donc, je suis fier de moi, quoi. Par rapport à ça, de ne pas avoir baissé les bras ou m'être suicidé. Je pense que j'ai démontré que j'étais quelqu'un de courageux.
La sortie de Marc, c'est un moment jubilatoire. C'est le plaisir de voir que ce qu'il a clamé pendant des années et des années aboutissait enfin.
Marc Machin tient sa revanche. Il s'affiche désormais dans les médias comme le symbole de l'erreur judiciaire. L'euphorie ne va pas durer éternellement. Le jeune homme retrouve progressivement l'anonymat et ses pulsions ressurgissent.
Quand le tourbillon médiatique va cesser, il va se retrouver seul avec lui-même. Et lui-même, c'est malheureusement des démons qui le poussent à commettre des faits répréhensibles à l'encontre des femmes.
L'actualité judiciaire, en bref, Marc Machin rattrapé par la justice. Il a été interpellé et placé en garde à vue hier pour une agression sexuelle présumée sur une femme d'une trentaine d'années à Paris. Il a reconnu les faits et invoqué une pulsion.
Il voulait avoir une relation sexuelle avec elle, ça n'a pas marché, ça lui a pas plu, elle s'est rebellée, bof, il l'a cogné, enfin il lui a donné un coup de poing qui lui a cassé une dent.
Marc Machin est à nouveau incarcéré. 8 mois seulement après sa très médiatique libération, il est rattrapé par la justice. Ironie du sort, il est encore derrière les barreaux quand s'ouvre le procès de David Sagnot, le 20 février 2012, au tribunal de Nanterre. Dans cette même salle d'assises où Marc Machin avait été condamné en première instance.
Le procès de David Sagnot, c'est la confrontation avec l'enfer. Avec l'enfer vécu par ma sœur.
C'est extrêmement violent, c'est extrêmement... c'est brutal, c'est très brutal. Et c'est insoutenable.
Reconnu coupable des assassinats de Marie-Agnès Bedeau et Maria-Judith Arrojo, David Sagnot est condamné par les jurés de la cour d'assises de Nanterre à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans.
J'accueille ce verdict avec... un vrai soulagement aussi que, qu'il ne puisse plus demain croiser la route de qui que ce soit.
Si David Sagnot est reconnu coupable du meurtre de Marie-Agnès Bedeau, Marc Machin, lui, n'est pas encore officiellement tiré d'affaire.
On est dans une situation très, très curieuse et heureusement juridiquement extrêmement rare, où vous avez finalement deux coupables pour le même meurtre.
Seul en procès de révision peut établir l'innocence de Marc Machin. Il s'ouvre à Paris le 17 décembre 2012. Un procès pour réparer l'erreur judiciaire.
Au fond, c'est pas le procès de Marc qui s'ouvre. C'est le procès de l'enquête et de l'instruction. Comment on a pu en arriver là? Comment des juges ont pu être aveuglés? Comment des policiers ont pu ne pas tout rechercher pour faire la démonstration de la vérité? Comment finalement expliquer ce mécanisme judiciaire qui fait qu'un innocent soit condamné?
Mais ce procès est aussi l'occasion de résoudre un dernier mystère. Marc Machin était-il présent près du pont de Neuilly à l'heure du crime, comme l'a toujours affirmé l'infirmière? La fille de Marie-Agnès Bedeau, elle, en est encore aujourd'hui persuadée.
Il a bien décrit avoir erré depuis la Porte Maillot cette nuit-là, jusque sur le pont de Neuilly, dans un état de spleen plus ou moins alcoolisé et drogué. Donc j'imagine assez bien que dans cet état de un petit peu second, il ait pu se retrouver sur le pont et voir le corps de ma mère.
Au procès de révision, ce 18 décembre 2012, l'avocat de Marc Machin balayera cette thèse.
Marc Machin n'était pas sur le pont de Neuilly le samedi 1er décembre 2001. Et s'il a pu reconnaître les vêtements que portait Marie-Agnès Bedeau le jour de sa mort, c'est uniquement parce que les policiers de la brigade criminelle lui ont montré les photos du cadavre pendant sa garde à vue.
Un argument qui ne convainc et n'intéresse finalement pas l'avocat général.
Je ne dirais pas que Marc Machin n'était pas sur le pont de Neuilly. Le témoignage de l'infirmière est crédible. Il n'y a pas lieu de le remettre en question. Mais pour tout vous dire, aujourd'hui, cette affirmation ne m'intéresse plus. L'essentiel est maintenant de réparer l'erreur judiciaire. C'est donc avec honneur que je requiers le prononcé de l'innocence de Marc Machin. Parce que vous ne doutez plus de cette innocence, vous acquitterez Marc Machin. La cour de révision lui a redonné sa liberté. Redonnez-lui sa dignité. Pour l'histoire. Pour son histoire. Acquittez-le.
Le 20 décembre 2012, après deux jours de débat, Marc Machin est définitivement innocenté du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. L'affaire du pont de Neuilly est une des 11 erreurs judiciaires reconnues sous la Ve République. Des destins d'hommes que tout accusait. Et pourtant...